Chapitre 5. L'éveil. Florence, depuis longtemps revenue de ses illusions, remarquait avec tristesse l'éloignement d'Édith pour son père. Elle le voyait augmenter de plus en plus et se changer peu à peu en une véritable aversion. Ses découvertes journalières jetaient une ombre épaisse sur son amour et sur ses espérances, et ravivaient dans son cœur cette douleur qui, assoupie un moment, n'en devenait maintenant que plus insupportable. C'était bien dur, qui pouvait le savoir mieux que Florence, d'avoir vu se changer en douleur la tendresse si vraie d'un cœur pur, de ne trouver qu'indifférence et froideur là où elle aurait dû trouver affection et sollicitude. C'était bien dur d'avoir nourri au fond de son cœur des sentiments si tendres, sans avoir jamais connu le bonheur de les voir partagés. Mais combien elle trouvait plus dur encore d'en venir à douter de son père ou d'Édith, si affectueuse pour elle, et de ne pouvoir songer à son amour pour chacun d'eux sans être saisie tour à tour d'étonnement, de crainte et d'effroi. Florence en était là pourtant, et ses souffrances venaient de la pureté de son âme, qui ne pouvait se résigner à ses antipathies funestes. Elle voyait la froideur, la sévérité de son père, aussi rude pour Édith que pour elle, aussi sec, aussi inflexible, aussi impitoyable. Elle se demandait quelquefois, les larmes aux yeux, si sa pauvre mère chérie n'avait pas eu à souffrir un traitement pareil, et si elle n'en était pas morte de douleur. Puis, quand elle pensait à Édith, comme elle la trouvait fière et hautaine pour tous, excepté pour elle. Comme cette femme semblait mépriser son père, comme elle se tenait loin de lui. Elle songeait à tout ce qu'elle lui avait entendu dire le soir même de son arrivée, et vite elle se demandait si ce n'était pas un crime d'aimer une personne en révolte ouverte avec son père. Connaissant son affection pour Édith, ne pourrait-il pas reprocher, sur son lit solitaire, à son enfant dénaturé, ce nouveau tort ajouté à celui qu'elle avait tant de fois déploré, à celui de n'avoir jamais su, dès sa naissance, gagner son amour paternel. Ses pensées, elle les refoulait bientôt au fond de son cœur, en songeant à un mot affectueux, à un doux regard d'Édith, et se croyait alors la plus ingrate des créatures. Qui donc, en effet, avait ranimé son courage? Qui avait su consoler ce cœur si seul et si cruellement blessé? Aussi, dans les élans de tendresse de cette douce créature vers chacun d'eux, souffrant de leur répulsion l'un pour l'autre, doutant de ce qu'elle leur devait à tous deux, Florence, qui avait élargi le cercle de ses affections, Florence, à côté d'Édith, souffrait plus maintenant qu'à l'époque où, dans la maison lugubre, elle gardait pour elle seule son secret, avant que sa nouvelle mère fût venue, par l'éclat de sa beauté, égayer la sombre demeure. Heureusement encore, dans son malheur, elle n'avait pas le moindre soupçon qu'Édith, par l'affection qu'elle avait pour elle, augmentait le refroidissement de son père pour sa nouvelle épouse et lui donnait de nouveaux sujets d'un injuste mécontentement. Si Florence avait pu se douter qu'une semblable cause pouvait produire un tel effet, quelle douleur pour elle! Quel sacrifice elle aurait tenté de faire, pauvre fille aimante! Comme elle serait allée d'un pas rapide et ferme, ensevelir à jamais sa peine aux pieds de ce Père céleste qui ne repousse pas, lui, l'amour de ses enfants et qui accueille leurs âmes éprouvées par la douleur. Mais elle n'en savait rien, par bonheur. Pas un mot là-dessus n'était prononcé maintenant entre Florence et Édith. Édith lui avait dit qu'il devait y avoir désormais entre elles le silence absolu de la tombe. Florence sentait qu'elle avait eu raison. C'est alors que son père fut ramené à la maison souffrant et meurtri. Retiré tristement dans son appartement, où il recevait seulement les soins des domestiques, sans qu'Édith l'approchât jamais, il n'avait d'autre ami, d'autre compagnon que M. Carker, qui ne le quittait pas avant minuit. « Ah oui, il a là une jolie société, Miss Florence, » disait Suzanne Nipper. « Voilà quelque chose de beau. Parlez-moi de ça. Si jamais il a besoin d'un certificat, qu'il ne s'avise pas de venir m'en demander un. Je ne lui dis que ça. »«
Chère Suzanne, silence, je vous en prie. »
« Ah, c'est facile à dire, » répondit Suzanne, exaspérée. « Mais vraiment, je vous en demande bien pardon, il se passe ici des choses qui vous tournent le sang, que c'est à croire qu'on a des épingles et des aiguilles dans les veines et qu'elles vous sortent par tous les pores. Ne vous y trompez pas, Miss Florence. Je ne dis rien contre votre belle-mère, qui m'a toujours traité comme il faut. Bien que je la trouve un tant soit peu fière, je ne puis pas dire que j'ai à me plaindre d'elle. Mais quand nous nous ravalons jusqu'à des Madame Pipchine, qu'on nous les jette à la tête et qu'on les voit monter la garde à la porte de votre papa, comme de vrais crocodiles, encore bien heureux qu'elles ne nous fassent pas des petits, c'est par trop révoltant. « Papa a bonne opinion de Madame Pipchine, Suzanne, » répondit Florence, « et il a le droit de choisir sa femme de charge. Paix donc, je vous en prie. » « Oui, Miss Florence, » répondit Suzanne, « vous avez beau me dire de me taire, ça n'empêche pas que Madame Pipchine me fait grincer les dents comme du verjus, ni plus ni moins. » Si ce soir-là, c'est-à-dire le soir où M. Dombey fut ramené chez lui, Suzanne déployait tant d'énergie de parole et supprimait dans sa volubilité de langue les points et les virgules de ses discours téméraires, c'est qu'ayant été envoyée par Florence pour demander des nouvelles de son père, elle s'était vue obligée de faire passer sa commission par le canal de sa mortelle ennemie, Madame Pipchine, et que celle-ci, sans aller demander les ordres de M. Dombey, s'était permis de faire ce que Mademoiselle Nipper appelait une réponse impertinente. N'était-ce pas bien hardi, en effet, de la part de cette martyre des mines du Pérou? N'était-ce pas manquer de respect à sa jeune maîtresse? Aussi, elle ne le porterait pas en paradis. De là les phrases et les discours sans fin de la femme de chambre courroucée. Depuis le mariage, surtout, elle était devenue plus soupçonneuse et plus méfiante, car, semblable à bien des personnes de sa classe, qui ont un attachement sincère pour une personne d'un rang plus élevé, comme celui qu'occupait Florence, Suzanne était très jalouse, et sa jalousie s'attaquait naturellement à Edith, qui était venue se jeter au travers de son ancienne autorité, en se plaçant entre elle et Florence. Au fond, Suzanne était toute fière et toute heureuse de voir sa jeune maîtresse reprendre enfin sa place sur le théâtre de son ancien abandon, de voir qu'elle avait pour compagne et pour protectrice la belle épouse de son père. Mais elle ne pouvait sacrifier toute son autorité à cette belle épouse sans un certain mécontentement et un secret dépit, dont elle cherchait à se justifier en qualifiant sévèrement l'orgueil et l'emportement de la dame. Du second plan où elle se trouvait nécessairement depuis le mariage, Miss Nipper surveillait cependant les affaires domestiques en général avec une ferme conviction qu'aucun bien ne pouvait résulter de la présence de Madame Dombey, toujours ayant soin cependant de déclarer bien haut en toute occasion qu'elle n'avait rien à dire contre elle. « Suzanne, dit Florence, qui était assise d'un air pensif à sa table, il est bien tard, je n'ai plus besoin de rien ce soir. » « Ah, Miss Florence, répondit Nipper, que de fois, bien sûr, je regrette le bon vieux temps où je restais assise auprès de vous bien plus tard que ce soir, et où je tombais de sommeil à force de fatigue quand vos yeux brillaient comme des escarboucles. Mais maintenant, vous avez une belle-mère qui vient s'asseoir auprès de vous, Miss Florence, et je n'en suis pas fâché, bien sûr, car je n'ai rien à dire contre elle. Je n'oublierai jamais celle qui fut ma bonne compagne, « quand je n'en avais pas, Suzanne, » répondit doucement Florence. « Non, jamais. » Et levant les yeux, elle passa son bras autour du cou de son humble ami, et lui souhaitant bonne nuit, elle l'embrassa. Miss Nipper en fut si touchée qu'elle se mit à sangloter. « Maintenant, ma chère Miss Florence, » dit Suzanne, « laissez-moi descendre en bas pour avoir des nouvelles de votre papa. Je sais que vous en êtes tourmentée. Laissez-moi redescendre et frapper moi-même à sa porte. » « Non, dit Florence, allez-vous coucher. Nous saurons plus de détails demain matin. J'irai moi-même m'informer de sa santé. Maman est descendue, j'en suis sûr. Florence rougit car elle ne l'espérait pas. Peut-être même est-elle près de mon père en ce moment. Bonsoir. » Suzanne était trop adoucie pour donner en ce moment son opinion personnelle sur la probabilité de la visite de Madame Dombey à son mari, et elle se retira sans rien dire. Florence, restée seule, cacha sa tête dans ses mains comme elle l'avait fait bien des fois à une autre époque et donna libre cours aux larmes qui inondèrent ses joues. Elle pensait au désaccord, au trouble de l'intérieur. À cette espérance, si toutefois elle en avait eu jamais l'espérance, maintenant déçue à tout jamais de pouvoir gagner l'affection de son père. Elle songeait à ses doutes, à la crainte qu'ils lui inspiraient tous deux. Puis c'étaient les aspirations de son cœur innocent vers l'un et l'autre. La douleur, le regret de voir se terminer ainsi ce rêve d'espoir et de bonheur qu'elle avait fait. Cruel combat qui jetait le trouble dans son âme, et ses larmes coulaient abondamment. Sa mère et son frère étaient morts. Son père restait toujours aussi froid pour elle. Edith résistait à son mari et le repoussait tout en aimant Florence, qui lui rendait tendresse pour tendresse. N'était-ce pas un sort jeté sur l'affection de la pauvre enfant, qu'elle dût rester aussi stérile qu'elle qu'en fut l'objet? Cette pensée, elle la chassait bien vite, mais celle qui l'avait fait naître était trop sérieuse pour être aussi facilement repoussée. Aussi Florence passa-t-elle une nuit bien triste. Au milieu de toutes ces réflexions, elle se représentait, comme elle l'avait fait tout le jour, son père blessé et souffrant, seul dans sa chambre, sans être secouru par celle qui aurait dû être près de lui, et passant ses lentes heures de douleur dans un abandon douloureux. Tout à coup, un frisson parcourut tout son être. S'il allait mourir! Elle y avait songé quelquefois déjà. S'il allait mourir sans la voir ou sans prononcer son nom. Dans son trouble, elle songea, en tremblant pourtant, à descendre une fois encore et à se glisser jusqu'à sa porte. Elle écouta avant de sortir. Tout reposait dans la maison et les lumières étaient éteintes. Dieu, qu'il y avait longtemps, se disait-elle, qu'elle avait fait pour la première fois ses pèlerinages nocturnes à la porte de son père. Dieu, qu'il y avait longtemps, se disait-elle en frissonnant, qu'elle était entrée une nuit dans sa chambre et qu'il l'avait reconduite au pied de l'escalier. Avec son même cœur d'enfant, ses 12 yeux timides, ses beaux cheveux flottants, aussi étrangère à son père dans sa fraîcheur de jeune fille que dans sa fraîcheur d'enfant, elle descendit doucement les escaliers, écoutant à chaque pas, et se glissa du côté de sa chambre. Aucun bruit dans la maison. La porte était entr'ouverte pour laisser pénétrer l'air. Tout était si calme dans l'intérieur qu'elle pouvait entendre le pétillement du feu et le tic-tac de la pendule placée sur la cheminée. Elle jeta un coup d'œil dans la chambre. La femme de charge, enveloppée dans une couverture, dormait profondément, assise dans un fauteuil devant le feu. La porte qui conduisait dans l'autre pièce, cachée en partie par un paravent, était à demi fermée. Mais il y avait de la lumière dans la seconde pièce, et la tête du lit était éclairée. Le silence était si profond qu'elle pouvait entendre, au bruit de sa respiration, qu'il était endormi. Cela lui donna le courage de passer derrière le paravent pour le regarder dans sa chambre. Elle éprouva un aussi grand saisissement en le voyant endormi que si elle ne se fût pas attendue à le voir. Florence s'arrêta immobile à sa place, et s'il se fût réveillé, elle n'aurait pas pu bouger. Il avait le front fendu, et l'on avait baigné ses cheveux qui retombaient tout humides et en désordre sur son oreiller. Un de ses bras, sorti du lit, était soigneusement bandé, et sa figure était très pâle. Florence vit tout cela d'un regard, et put s'assurer qu'il dormait profondément. Si elle resta clouée à sa place, ce n'était pas ce spectacle seulement qui la troublait. Non, il y avait encore autre chose, quelque chose de plus fort que cela, qui lui faisait paraître la personne de son père si imposante. Elle ne l'avait jamais regardé en face, jamais, sans qu'il y eût toujours sur son visage, du moins elle se l'imaginait, une expression de trouble à son égard. Elle ne l'avait jamais regardé en face, que l'espérance ne se renfonçât dans son cœur, et que son regard timide ne s'abaissât devant la sévérité, la froideur d'un visage insensible et repoussant. Mais, en ce moment, le nuage qui jusque-là avait toujours attristé son enfance avait disparu des traits qu'elle considérait. La nuit calme et tranquille l'avait apparemment dissipé. Elle aimait à croire que peut-être il s'était endormi en la bénissant. « Éveille-toi, mauvais père, éveille-toi, malheureux. Le temps marche, l'heure approche d'un pas rapide. Éveille-toi !» Son visage n'était pas changé, et pendant qu'elle le regardait avec une crainte respectueuse, son immobilité lui rappela les êtres chers à son cœur qu'elle avait perdus. C'est ainsi qu'ils étaient, c'est ainsi qu'ils seraient, qu'elle-même serait un jour pauvre enfant désolée. Mais quand, lorsque cette heure fatale serait venue, ce qu'elle allait faire ne pouvait toujours pas être un chagrin pour lui, et ce serait un soulagement pour elle. Que fit-elle donc? Elle se glissa tout près du lit, et, retenant sa respiration, elle se pencha, déposa un doux baiser sur son front et approcha son visage du sien pendant quelques instants. Puis elle passa autour de l'oreiller le bras qu'elle n'osait jeter autour de son cou. « Éveille-toi donc, misérable, pendant qu'elle est à ton chevet. » Le temps fuit, l'heure approche d'un pas inévitable. « La voilà sur le seuil, éveille-toi !» Au fond de son cœur, elle pria Dieu de bénir son père, de le rendre plus tendre pour elle, si cela se pouvait. Sinon, de lui pardonner s'il était coupable, et de lui pardonner à elle-même cette prière presque impie. En l'adressant au ciel, elle le regarda encore, les yeux voilés de larmes, et, fuyant timidement, elle sortit de sa chambre, traversa l'autre et disparut. Qu'il dorme maintenant, qu'il dorme pendant qu'il le peut. Mais puisse-t-il voir cette gracieuse figure à son chevet quand il s'éveillera, et la trouver près de lui quand l'heure sera venue? Le cœur de Florence était bien triste quand elle monta furtivement les escaliers. La maison, dans son calme, avait quelque chose de plus effrayant depuis qu'elle était descendue. Le sommeil dont elle avait été témoin, au milieu du silence de la nuit, avait pour elle la solennité de la vie et de la mort à la fois. Sa démarche silencieuse et si pleine de mystère rendait encore plus saisissant le calme de la nuit. Elle n'eut pas l'envie, elle fut presque incapable de rentrer dans sa chambre, et passant par le salon, où la lune, à moitié cachée par les nuages, laissait pénétrer ses rayons à travers les jalousies, elle regarda dans la rue déserte. Le vent soufflait tristement. Les lanternes étaient pâles et tremblantes, comme si elles avaient froid. Il y avait au loin dans le ciel une lueur de demi-ténèbres ou de demi-jour. La nuit expirait frissonnante et agitée comme le moribond qui finit dans la peine. Florence se rappela que déjà, au chevet d'un autre malade, elle avait observé le même temps froid et sombre et reconnu les mêmes impressions. Elle lui faisait mal aujourd'hui comme alors, seulement elles étaient plus tristes encore. Sa mère n'était pas venue dans sa chambre ce soir-là. Aussi, quand la nuit fut avancée, elle sortit de son lit. Elle éprouvait un tel malaise, elle avait surtout un tel désir de parler à quelqu'un et de rompre le charme de cette nuit triste et silencieuse, qu'elle dirigea ses pas vers la chambre où reposait Edith. La porte, qui n'était pas fermée en dedans, s'entr'ouvrit doucement lorsqu'elle la poussa de sa main tremblante. Elle fut surprise de trouver de la lumière. Mais ce qui la surprit encore davantage, ce fut de voir sa mère, à moitié déshabillée, assise devant les cendres de la cheminée. En voyant ses yeux fixes, ardents, cette figure, cette attitude, ce mouvement convulsif qui lui faisait saisir le bras de son fauteuil, comme si elle allait s'élancer, Florence, en présence de ce visage bouleversé, éprouva un sentiment de terreur. « Maman !» s'écria-t-elle. « Qu'y a-t-il ? » Edith tressaillit. Le regard d'effroi qu'elle lui lança la fit trembler encore davantage. « Maman !» dit Florence en s'approchant avec précipitation. « Chère maman, qu'avez-vous ? » « J'ai été souffrante, » répondit Edith en tremblant et en continuant à la regarder d'un air singulier. « J'ai fait de mauvais rêves, mon ange. Non, je rêvais à moitié éveillée. » Peu à peu, ses traits prirent une expression plus douce. Elle laissa Florence s'approcher d'elle, la serra dans ses bras et lui dit avec tendresse « Mais qu'est-ce que mon petit oiseau vient faire ici ? Que vient-il faire ici ? J'étais inquiète, maman, de ne pas vous avoir vue hier soir, et comme j'ignorais comment allait papa, je... » Florence s'arrêta court. « Est-ce qu'il est tard ? » fit Edith en relevant les boucles de la jeune fille qui se mêlait à ses cheveux noirs et lui cachait le visage. « Très tard, presque jour. »« Presque jour, » répéta-t-elle d'un ton de surprise. « Chère maman, que vous êtes-vous donc fait à la main ?» Edith la retira tout à coup. Et pendant quelques instants, elle regarda Florence avec la même expression d'effroi que tout à l'heure, comme si elle craignait de lui laisser voir sa main. Enfin, elle se remit et lui dit « Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est un coup. » Puis elle ajouta « Ma Florence !» Son sein se gonfla et elle versa d'abondantes larmes. « Maman, dit Florence, que puis-je faire? Que faut-il que je fasse pour nous rendre plus heureuses? Dites-moi, y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?»« Non, rien, » répondit-elle. « En êtes-vous bien sûr? Ne pourrais-je donc jamais vous être bonne à rien? Oh, ma chère maman, si je vous parle, malgré nos conventions, des pensées que j'ai en ce moment, vous ne me blâmerez pas, n'est-ce pas ?»«
C'est inutile, » répliqua Edith, « c'est inutile. Je vous ai dit, ma chère enfant, que j'avais fait de mauvais rêves. Rien ne peut les changer, rien ne peut les empêcher de revenir. »
« Je ne comprends pas, » dit Florence, en regardant fixement le visage d'Edith, qui parut s'assombrir sous son regard.
« J'ai vu un rêve, » dit Edith à voix basse, « un orgueil impuissant pour faire le bien, tout puissant pour faire le mal. Un orgueil qui, pendant de longues années d'infamie, a été blessé, martyrisé, qui jamais ne s'est replié que sur lui-même. Un orgueil qui a condamné l'âme qui l'habitait à avoir la conscience de son avilissement et qui ne l'a jamais aidé à se venger de cette profonde humiliation, ou à s'y soustraire, ou à dire « je ne veux pas que cela soit ». Un orgueil qui, bien dirigé, aurait pu aboutir à de bons résultats, mais qui, mal conduit, corrompu comme l'âme dans laquelle il séjourne, n'a été pour lui-même qu'un instrument de mépris, de cruauté, de ruine. Elle ne regardait plus Florence et ne s'adressait plus à elle. Elle continuait comme si elle était seule. J'ai vu en rêve une telle indifférence, un tel endurcissement produit par ce profond mépris de soi-même. Cet orgueil était si vil, si impuissant, si misérable, qu'il a marché avec insouciance à l'autel, obéissant au simple signe que lui faisait un doigt bien connu, trop connu. Oh, ma mère, il lui obéissait en le méprisant. Orgueil impie qui préférait se vouer une bonne fois à sa propre haine, plutôt que de ressentir encore chaque jour la pointe de quelque aiguillon nouveau. Pauvre créature ! Son émotion croissait, son visage s'assombrissait, et elle regarda Florence comme elle l'avait regardée quand elle était entrée. « Et j'ai rêvé, dit-elle, que dans un premier et dernier effort que cet orgueil a fait pour venir à bout de son dessein, il a été écrasé, oui, écrasé par un pied abject, mais qu'il se relève et se rit de son vainqueur. J'ai rêvé que cet orgueil était blessé, poursuivi, traqué par une meute de chiens. Mais bien qu'épuisé par la lutte, il ne veut pas céder. Il le pourrait, mais non. Il se sent une force qui le révolte contre le chasseur qui le poursuit. Il le hait, il se dresse contre lui, il le brave. Son bras étreignit convulsivement le bras tremblant de Florence, et son visage se calma quand ses yeux s'abaissèrent sur la figure alarmée et surprise de la jeune fille. « Oh, Florence, » dit-elle, « j'ai cru cette nuit que j'allais devenir folle. » Sa tête superbe fléchit et se pencha sur le cou de Florence. Elle pleura encore. « Ne m'abandonnez pas, restez auprès de moi. Je n'espère plus qu'en vous. » Combien de fois elle répéta ces mots. Bientôt elle devint plus calme. Elle fut attendrie en voyant les larmes de Florence, en voyant cette pauvre enfant encore debout à une pareille heure. Le jour commençait à poindre. Edith la prit dans ses bras et la conduisit à son lit. Quant à elle, elle ne se coucha pas, elle s'assit près de sa fille et lui dit d'essayer de dormir. « Ma chère enfant, lui dit-elle, vous êtes fatiguée et malheureuse. Vous avez besoin de repos. »« Oh oui, maman, je suis bien fatiguée et bien malheureuse cette nuit. » « Mais vous êtes fatiguée et malheureuse aussi. »« Non, mon ange, je ne le suis pas quand vous reposez si près de moi. »
Elles s'embrassèrent, et Florence, accablée, tomba peu à peu dans un doux sommeil. Mais pendant que ses yeux se fermaient devant le visage qu'elle avait à côté de son lit, son esprit, qui se reportait sur l'autre visage qu'elle avait vu en bas, était triste. Sa main, en se rapprochant d'Edith, comme pour y chercher une consolation, tremblait pourtant de crainte de trahir son père par cette caresse. Dans son sommeil, elle essayait de les réconcilier ensemble, de leur montrer qu'elle les aimait tous les deux, mais elle ne pouvait y parvenir. La tristesse de la réalité se confondait avec la tristesse de ses rêves. Edith, assise à côté d'elle, regardait ses longs cils tout mouillés sur ses joues roses. Elle la regardait avec douceur et pitié, car elle savait bien la vérité, elle. Mais le sommeil ne vint pas lui fermer les paupières. Il faisait jour qu'elle était encore sur la chaise, tout éveillée, tenant dans ses mains la douce main de Florence. De temps en temps, elle disait tout bas à son visage assoupi, « Restez près de moi, Florence. Je n'ai plus d'espérance qu'en vous. »
Chapitre 6. Une séparation.
Miss Nipper se leva avec le jour, mais après le soleil toutefois. Ses yeux noirs, ses yeux si perçants, paraissaient fatigués. Eux, qu'on n'aurait jamais soupçonné de se fermer quelquefois, tant ils étaient éveillés d'ordinaire, ils avaient perdu tout leur feu. Ils étaient tout gonflés, comme s'ils avaient passé la nuit dans les larmes. Pourtant, Suzanne était loin d'être abattue. Ce jour-là, elle était singulièrement allègre et décidée. Toutes ses facultés semblaient se resserrer en faisceau pour l'accomplissement de quelques grands projets. Elle était aussi beaucoup plus pincée qu'à l'ordinaire, et en rôdant dans la maison, elle avait des mouvements de tête qui indiquaient une grande détermination. En effet, Suzanne avait pris une décision, et une décision audacieuse encore. Il ne s'agissait de rien moins que de se présenter devant M. Dombey et de lui parler à ce gentleman, de lui parler entre quatre yeux. « J'ai toujours dit que je le ferais, se dit-elle, ce matin-là, d'un air menaçant et en branlant énergiquement la tête, j'ai toujours dit que je le ferais. Eh bien, à présent, je vais le faire. » S'encourageant elle-même, avec une vivacité qui n'appartenait qu'à elle, à accomplir ce grand dessein, Suzanne Nipper resta toute une après-dînée dans le vestibule et sur les escaliers, sans trouver le moment favorable pour livrer l'assaut. Elle ne se laissa pas déconcerter le moins du monde par ce contretemps. Il eut au contraire pour résultat d'exciter davantage son ardeur, loin de relâcher sa vigilance. Enfin, sur le soir, elle s'aperçut que son ennemie jurée, Madame Pipchin, sous le prétexte d'avoir passé la nuit, faisait un somme dans sa chambre et que M. Dombey était seul étendu sur son sofa. Suzanne, agitant non seulement sa tête, mais toute sa petite personne, s'avança sur la pointe du pied jusqu'à la porte de M. Dombey et frappa. « Entrez !» dit M. Dombey. Suzanne fit un dernier mouvement pour se donner du cœur et entra. M. Dombey, qui regardait le feu, ne fut pas peu surpris de l'étrange visite et se releva légèrement sur son coude. Suzanne lui fit une révérence. « Que demandez-vous ? » dit M. Dombey. « S'il vous plaît, monsieur, dit Suzanne, je désire vous parler. »« Je désire vous parler », semblèrent redire après Suzanne les lèvres de M. Dombey, qui, abasourdi de l'audace de la servante, n'eut pas la force de les répéter tout haut. « Il y a aujourd'hui 12 ans, monsieur, dit Suzanne avec sa volubilité ordinaire, que je suis à votre service, attaché à la personne de Mademoiselle Florence, ma jeune maîtresse, qui ne parlait pas encore bien quand je suis entré ici, et quand Madame Richard était encore toute nouvelle, j'étais déjà bien vieille dans la maison, car bien que je ne sois pas une Mathieu Salem, je ne suis pas non plus une enfant à la maternelle. » Monsieur Dombey se leva encore sur son coude et la regarda d'un air peu curieux d'en apprendre davantage. « Ah, monsieur, dit Suzanne, je n'ai jamais vu une meilleure personne plus couverte des bénédictions du bon Dieu que mademoiselle. Je dois le savoir un peu mieux que d'autres, moi qui l'ai vue dans son chagrin et dans sa joie. Ah, par exemple, de la joie, elle n'en a guère eu, mais c'est égal, je l'ai toujours vue avec son frère. Je l'ai vue quand elle était seule, que personne ne la voyait, oui, que personne ne la voyait. Je le dirai à tous et à chacun, et là-dessus, Suzanne branla la tête et frappa légèrement du pied. Oui, je le dis et je le répète, mademoiselle est l'ange le plus chéri et le plus couvert des bénédictions du bon Dieu qui ait jamais respiré la vie, et qu'on me déchirerait en lambeaux, que je le dirai et que je le répéterai encore, quoique je n'ai pas le courage d'un saint martyr comme Fox. L'indignation et l'étonnement rendirent M. Dombey plus pâle que ne l'avait fait sa chute. Ses regards restaient fixés sur son interlocutrice. Il ne pouvait en croire ni ses yeux ni ses oreilles. « On ne saurait faire autrement que d'être honnête et fidèle avec Mademoiselle Florence, » continua Suzanne, « et je ne me fais pas grand mérite d'avoir été à son service pendant 12 ans, car je l'aime. Oui, je l'aime, je le dirai à tous et à chacun. » Ici Suzanne secoua encore la tête, frappa légèrement du pied et poussa un soupir. « Mais de bons et fidèles services me donnent bien le droit de parler, j'espère. Il faut que je parle, et je veux parler maintenant que j'ai tort ou raison. » « Qu'est-ce que veut dire cette femme ?» cria M. Dombey, dont l'œil étincelait en la regardant. « Comment avez-vous l'audace ? Ce que je veux dire, monsieur, ce que je veux, c'est de parler avec respect et sans offenser personne, mais le cœur sur les lèvres. Maintenant, comment j'ai l'audace ? Je n'en sais rien, mais je l'ai. Ah, monsieur, vous ne connaissez pas mademoiselle. Non, monsieur, Vous ne la connaissez pas. Vous ne vous contenteriez pas de la connaître si peu que ça si vous aviez commencé une fois à la connaître. » Monsieur Dombey, hors de lui, tendit la main pour prendre le cordon de la sonnette, mais il n'y avait pas de cordon de ce côté de la cheminée, et il ne pouvait pas se lever ni aller chercher ce cordon sans soutien. L'œil vif de Suzanne vit aussitôt son impuissance, et dès ce moment, comme elle le fit remarquer plus tard, elle sentit qu'elle était maîtresse du terrain et qu'elle tenait son âme. « Miss Florence, dit Suzanne, c'est la plus dévouée, la plus patiente, la plus docile, la plus belle de toutes les filles. Il n'y a pas de gentleman, monsieur, eût-il toute la fortune des plus riches individus de l'Angleterre, qui ne fût fier de mademoiselle. Si ce gentleman connaissait sa vraie valeur, il consentirait à perdre toute sa fortune sou à sou et à aller mendier de porte en porte, dit Suzanne qui éclata en sanglots, plutôt que de faire endurer à ce bon cœur toutes les souffrances que je lui ai vues endurer dans cette maison. « Femme ! Cria M. Dombey, quittez la chambre !»« Pardon, excuse, je ne quitterai pas la chambre. Je quitterai plutôt la place, monsieur, où j'ai été pendant tant d'années et où j'ai vu tant de choses, » répliqua l'intrépide Suzanne, « quoique j'espère bien que vous n'aurez pas le cœur de me séparer de mademoiselle Florence. Je ne m'en irai maintenant que quand j'aurai tout dit. » Il peut bien se faire que je ne sois pas une veuve du Malabar. Je ne le suis pas, et je ne voudrais pas le devenir. Mais si une fois je m'étais mis dans la tête de me brûler toute vive, je le ferais. Eh bien, je me suis mis dans la tête de continuer. » L'attitude de Suzanne, non moins que son langage, prouva qu'elle allait exécuter sa menace. « Il n'y a personne à votre service, continua Suzanne, qui ait plus peur de vous que moi. » Et vous pourrez en juger quand je vous dirai que j'ai mille et mille fois pensé à vous parler, sans avoir jamais osé le faire jusqu'à hier soir, mais, ma foi, hier soir, je m'y suis tout à fait décidé. » M. Dombey, dans le paroxysme de la rage, tenta de saisir encore une fois le cordon de la sonnette qui n'était pas là, et, à défaut de cordon, il se tira les cheveux. « J'ai vu mademoiselle Florence, continua Suzanne, quand elle était encore toute petite. » Travailler, travailler, il fallait voir. Et avec quelle douceur, quelle patience. Les meilleures femmes peuvent prendre exemple sur elle. Je l'ai vue pendant plusieurs nuits de suite passer la moitié du temps à aider son petit frère, si délicat à faire ses devoirs. Je l'ai vue l'aider et le veiller dans d'autres moments, on sait bien de quel moment je veux parler. Je l'ai vue, sans être encouragée ni soutenue, devenir une femme, grâce à Dieu, une femme, l'orgueil et l'ornement de toutes les sociétés dans lesquelles elle se trouve. Et je l'ai toujours vue cruellement négligée et souffrir amèrement de son abandon. Oui, je le dis à chacun et à tous, je l'ai vue, et jamais elle ne soufflait mot. Mais parce qu'on a de l'humilité et du respect pour ses supérieurs, ce n'est pas une raison pour s'agenouiller devant des idoles. Je veux parler et je parlerai. « N'y a-t-il personne ici ? » s'écria M. Dombey en appelant. « Où sont les hommes ? Où sont les femmes ? Quoi, pas un ici ?»« J'ai quitté cette chère demoiselle encore debout hier soir, » dit Suzanne sans se laisser effrayer. « Et je savais bien pourquoi, car vous étiez malade, monsieur. Elle n'avait pas de vos nouvelles, et c'était assez pour la tourmenter. Je voyais bien que ça la tourmentait. Je ne suis peut-être pas un lynx, mais j'ai des yeux, et je suis resté levé dans ma chambre un peu de temps, pensant qu'elle pourrait s'ennuyer d'être seule et qu'elle aurait besoin de moi. Je l'ai vue se glisser en bas, venir jusqu'à cette porte, comme si c'était un crime de venir voir son papa. Je l'ai vue ressortir, se promener toute seule dans les salons en sanglotant, que ça me fendait le cœur de l'entendre. « Non, je ne puis plus supporter de l'entendre pleurer, » dit Suzanne Nipper en essuyant ses yeux noirs et les fixant d'un air déterminé sur la figure furieuse de M. Dombey. « Ce n'est pas la première fois que je l'ai entendu pleurer, non, depuis des années. Vous ne connaissez pas votre propre fille, monsieur. Vous ne savez pas ce que vous faites, monsieur. Je le dis à chacun et à tous, » s'écria Suzanne Nipper comme péroraison, « que c'est le comble de l'abomination. »« Tiens, tiens !» s'écria la voix de Madame Pipchin, tandis que les vêtements d'alépine noire de la veuve du mineur du Pérou balayaient la chambre. « Qu'est-ce que j'entends là ?» Suzanne se contenta de lancer à Madame Pipchin un regard qu'elle avait inventé exprès pour elle lors de leur première connaissance, et elle laissa répondre M. Dombey. « Ce que vous entendez, répondit M. Dombey, écumant de rage, ce que vous entendez, madame, vous qui êtes à la tête de cette maison et qui êtes chargée d'y maintenir l'ordre, N'est-ce pas plutôt à vous qu'il faut que je le demande? Connaissez-vous cette femme?
Je n'en sais pas grand-chose de bon, monsieur, croassa madame Pipchin. Comment osez-vous entrer ici, coquine? Allons, dehors, dehors!
Mais l'inflexible Suzanne lança un autre regard à madame Pipchin et demeura impassible.
Appelez-vous diriger cette maison, madame? Dit monsieur Dombey, de laisser une femme comme ça prendre la liberté de venir me parler, à moi, un gentleman, chez lui, dans sa propre chambre, être en butte aux impertinences d'une servante?
Ah, monsieur, répondit madame Pipchin, dont l'œil gris et dur exprimait la vengeance, je le déplore sincèrement. Rien n'est plus contre les règles, rien n'est plus déraisonnable, mais je regrette de dire, monsieur, que cette jeune femme sort de la règle. Elle a été gâtée par Miss Dombey et n'obéit à personne.
Vous ne direz pas non, n'est-ce pas? Dit madame Pipchin en s'adressant sévèrement à Suzanne et en branlant la tête.
Fis donc, coquine, dehors, allons, dehors, et un peu vite.
S'il y a à mon service des gens qui sortent de la règle, dit monsieur Dombey en se retournant vers le feu, vous devez savoir ce que vous avez à faire, j'imagine.
Savez-vous pourquoi je vous ai prise? Mettez-les à la porte.
Oui, monsieur, je sais ce que j'ai à faire, répliqua madame Pipchin, et je le ferai.
Suzanne Nipper, lui dit-elle d'un ton rude, je vous donne congé à partir d'aujourd'hui en un mois.
En vérité, s'écria Suzanne en se redressant.
Oui, répondit madame Pipchin, et ne riez pas, drôlesse, ou vous aurez affaire à moi. Sortez à l'instant.
Certes, oui, je sortirai à l'instant. Vous pouvez y compter, dit Suzanne avec volubilité. Je suis resté 12 ans dans cette maison, au service de ma jeune maîtresse, et je ne resterai pas une heure sous les ordres d'une personne qui répond au nom de Pipchin, croyez-le bien, madame Pipchin.
Ce sera un fameux débarras de mauvaise engeance, dit la furibonde vieille femme. Allons, dépêchons, je vais vous faire flanquer à la porte.
Ma consolation, dit Suzanne en regardant monsieur Dombey, c'est que j'ai dit des vraies vérités aujourd'hui que j'aurais dû dire depuis longtemps, et qu'on ne répétera jamais, ni trop souvent, ni trop clairement, et que toutes les Pipchines du monde ne pourront empêcher que je les ai dites. Non, toutes les Pipchines du monde, et j'espère bien que le nombre n'en est pas grand.
Ici, madame Pipchin fit entendre un terrible « Sortez, sortez !» Mais Miss Nipper continua à regarder monsieur Dombey.
Non, elles ne pourront pas empêcher que je les ai dites. Quand bien même elles donneraient toute l'année des congés à partir de 10 heures du matin jusqu'à minuit, et qu'elles en mourraient de fatigue, ce qui serait une fête universelle.
En disant ces mots, Miss Nipper passa devant son ennemi pour sortir de la chambre. Elle monta en haut dans sa petite mansarde en se donnant des airs, ce qui ne fit qu'augmenter encore l'exaspération de l'irascible madame Pipchin. Puis elle s'assit au milieu de ses malles et se mit à pleurer. La voix de madame Pipchin en dehors l'attira bientôt de son attendrissement. Madame Pipchin était un remède salutaire contre les attendrissements.
« Cette impudente coquine, dit madame Pipchin, accepte-t-elle son congé, oui ou non ?»
Miss Nipper répondit de l'intérieur que la personne ainsi désignée n'habitait pas cette partie de la maison, mais que son nom était Pipchin et qu'on la trouverait dans la chambre de la femme de charge.
« Infâme drôlesse !» s'écria madame Pipchin en secouant le bouton de la porte.
« Sortez à l'instant, faites vos paquets tout de suite.
Comment osez-vous parler de cette manière à une femme qui a vu de meilleurs jours ?»
À quoi Miss Nipper répondit de sa forteresse qu'elle déplorait les meilleurs jours qu'avait vus madame Pipchin, que pour sa part, elle regardait comme de mauvais jours dans l'année tous ceux où l'on voyait madame Pipchin, mais que ces jours-là étaient encore trop bons pour elle.
« Ce n'est pas la peine de faire tant de tapage à ma porte, » dit Suzanne, « ni de salir le trou de ma serrure en y fourrant votre œil. Je fais mes paquets et je décampe. Vous pouvez y compter. » La douairière exprima sa vive satisfaction de cette nouvelle, et après avoir redit pour le bouquet ce qu'elle pensait en général des jeunes drôlesses et surtout de leurs défauts quand elles avaient été gâtées par Miss Dombey, elle se retira pour aller compter les gages de Nipper.
Suzanne s'empressa de mettre ses paquets en ordre afin de partir aussitôt avec dignité. Mais elle pleurait à chaudes larmes tout le temps en songeant à Florence. L'objet de ses regrets ne tarda pas à se présenter devant elle, car le bruit avait déjà couru dans toute la maison que Suzanne Nipper avait eu une affaire avec madame Pipchin, qu'elles avaient comparu toutes deux devant monsieur Dombey, qu'il y avait eu une scène, jusque-là sans précédent, dans la chambre de M. Dombey. Enfin que Suzanne partait. Florence put constater, quand elle entra, l'exactitude du bruit qui circulait dans la maison, car sa bonne Suzanne avait fermé sa dernière malle et se tenait assise dessus, son chapeau sur la tête. « Suzanne, s'écria Florence, Suzanne va me quitter. Vous ! Oh, pour l'amour de Dieu, Miss Florence, s'écria Suzanne en sanglotant, ne me dites pas un mot, ou je serai capable de perdre contenance devant ces pipchines, et je ne voudrais pas qu'elles me vissent pleurer pour tout l'or du monde. » Suzanne, dit Florence, ma bonne fille, ma vieille amie, que vais-je devenir sans vous ? Avez-vous bien le courage de vous en aller comme cela ? Oh non, ma chère, ma bien-aimée demoiselle, non, je ne l'ai pas, sanglota Suzanne, mais je ne puis faire autrement. J'ai fait ce que je devais faire, mademoiselle, oui, ce n'est pas ma faute, je suis bien résignée. Je ne pouvais pas rester mon moi, car alors j'aurais été bien sûr de ne pas vous quitter du tout, ma bonne demoiselle, et pourtant il fallait toujours en venir là. Ne me parlez plus, Miss Florence, car bien que je sois assez ferme, je ne suis pas de marbre, ma chère demoiselle. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, et pourquoi tout cela, dit Florence. Ne me le direz-vous pas, car Suzanne secouait seulement la tête. Non, mademoiselle, répondit Suzanne, ne me le demandez pas, je ne dois rien vous dire. Et quoi que vous fassiez, ne cherchez pas à me retenir surtout, car ça ne se pourrait pas, et ça ne servirait qu'à vous faire du tort. Et maintenant, ma bonne et bien chère demoiselle, pour l'amour de Dieu, pardonnez-moi si j'ai fait mal, pardonnez-moi mon mauvais caractère que vous avez enduré depuis tant d'années. » Et avec cette prière, faite du fond de son cœur, Suzanne serra sa jeune maîtresse dans ses bras. « Ma chère demoiselle, il y en a beaucoup qui pourront venir vous servir et être bien heureuses de vous servir, et qui vous serviront avec fidélité et dévouement. Mais il n'y en a pas qui puisse vous servir avec plus de tendresse que moi, ou vous aimer seulement la moitié autant que je vous aime, c'est là ce qui me console. Adieu donc, bonne demoiselle Florence. Où comptez-vous aller, Suzanne ? Demanda Florence tout en larmes. J'ai un frère qui habite à la campagne. Il est fermier dans le comté d'Essex, dit Suzanne, le cœur brisé. Il élève bien des vaches et bien des cochons. J'irai par la diligence et je resterai chez lui. Ne vous inquiétez pas de moi, car j'ai placé de l'argent à la caisse d'épargne, ma bonne miss, et je n'ai pas besoin d'entrer tout de suite dans une autre place. Je ne le pourrai pas, d'abord. Non, je ne le pourrai pas. Je ne le pourrai pas, chère maîtresse de mon cœur. » Suzanne termina par un violent sanglot qui fut arrêté heureusement par la voix de Madame Pipchin parlant au bas de l'escalier. Au son de cette voix, Suzanne essuya ses yeux rouges et gonflés, et malgré sa tristesse, elle fit semblant de dire d'un ton léger à M. Tollinson d'aller lui chercher une voiture et de descendre ses paquets. Florence, toute pâle, toute agitée et désolée, sentait qu'il était inutile qu'elle essayât d'intervenir. Elle craignait d'être cause d'une nouvelle scène entre son père et Edith, dont le visage triste et courroucé avait été tout à l'heure un avertissement pour elle. Elle croyait deviner aussi qu'elle était la cause innocente du renvoi de sa vieille domestique qui lui était si attachée. Elle descendit donc en pleurant jusqu'à la chambre d'Edith, où Suzanne alla lui faire ses derniers adieux. « Maintenant, voici la voiture, voici les paquets. »« Partez, partez !» dit Madame Pipchin en arrivant au même moment. « Je vous demande pardon, madame, » dit Madame Pipchin à Madame Dombey, « mais les ordres de M. Dombey sont formels. » Edith, à qui l'on faisait sa toilette, car elle allait dîner en ville, conserva son air fier et ne fit pas la moindre attention à ce qui se passait. « Tenez, voilà votre argent, » dit Madame Pipchin, qui, en vertu de son système d'éducation et en souvenir des mines du Pérou, était habituée à malmener les domestiques, comme elle avait malmené ses élèves de Brighton, ce dont Bitherstone lui gardait une éternelle rancune. « Tenez, voilà votre argent, plus tôt vous serez parti, mieux cela vaudra. » Suzanne ne se sentit même pas le courage de lancer à Madame Pipchin le regard qui lui revenait de droit. Elle fit seulement sa révérence à Madame Dombey. Celle-ci, pour toute réponse, inclina légèrement la tête. On voyait qu'elle cherchait à éviter le regard de tout le monde, excepté ceux de Florence. Ensuite, Suzanne serra une dernière fois dans ses bras sa jeune maîtresse, qui lui donna le baiser d'adieu. À ce moment décisif, la figure de la pauvre Suzanne présentait une suite de phénomènes physiognomoniques les plus curieux qu'on ait jamais observés. car malgré la violence et les sentiments auxquels son cœur était en proie, elle faisait tous ses efforts pour étouffer ses sanglots, dans la crainte que Madame Pipchin, si elle venait à les entendre, n'en fût trop fière et trop triomphante. Au même moment, Tomlinson, qui était déjà sorti avec les caisses, dit en s'adressant à Florence, « Je vous demande bien pardon, mais Monsieur Toots est dans la salle à manger. Il vous présente ses compliments et désire savoir comment se portent Diogène et Monsieur. » Prompte comme la pensée, Florence s'esquiva et descendit aussitôt l'escalier. Monsieur Toots, dans ses plus beaux habits, soupirait fortement, inquiet et agité d'avoir osé se présenter. « Oh, comment vous portez-vous, Miss Tombet ?» dit Monsieur Toots. « Qu'est-ce que vous savez, grand Dieu ?» Cette dernière exclamation venait de la terreur qu'avait éprouvée Monsieur Toots en voyant des traces de larmes sur la figure de Florence. Il s'arrêta tout court dans son ricanement pour prendre l'air du plus profond désespoir. « Mon cher Monsieur Toots, dit Florence, vous êtes si bon pour moi, vous êtes si honnête, que je crois pouvoir vous demander une faveur. »« Miss Tombet, répondit Monsieur Toots, veuillez seulement m'indiquer un service que je puisse vous rendre, et vous me donnerez l'envie de vous en rendre 1000. »« C'est un bonheur, dit Monsieur Toots d'un ton ému, que je ne connais guère. »« Suzanne, ma plus vieille amie, va me quitter subitement, et elle part seule, la pauvre fille, dit Florence. Elle s'éloigne pour aller à la campagne. » Puis-je vous demander de prendre soin d'elle jusqu'à ce qu'elle soit dans la diligence ?»« Miss Tombet, répondit M. Toots, grand honneur vous me faites, et c'est bien aimable à vous. Cette preuve de votre confiance, après la manière stupide dont je me suis conduit à Brighton... »« Oui, dit Florence par mégarde, non, n'y pensez plus. »« Enfin, voudrez-vous bien avoir la bonté de l'accompagner et de vous tenir prêt à la rejoindre quand elle va partir ?»« Je vous remercie 1000 fois, vous soulagez mon cœur. » Elle ne me paraîtra pas aussi abandonnée. Vous ne sauriez croire combien je vous suis reconnaissante et combien je suis persuadée de votre bonne amitié. » Florence, dans l'ardeur de sa reconnaissance, le remercia 1000 et 1000 fois, et M. Toots, dans l'ardeur de son bonheur, s'éloigna bien vite, mais à reculons, pour ne pas la perdre de vue. Florence n'eut pas le courage de sortir quand elle vit la pauvre Suzanne dans le vestibule, poussée par Madame Pipchin, et caressé par Diogène. Le chien sautait après Suzanne et causait une mortelle frayeur à Madame Pipchin en s'attaquant à ses jupons d'alépine noire et en grondant avec colère au son de sa voix. Il faut dire qu'il détestait la duègne de tout son cœur. Florence vit Suzanne donner la main à tous les domestiques et se retourner une dernière fois pour regarder son ancienne demeure. Elle vit Diogène s'élancer après le cab comme pour le suivre. Il avait l'air de ne pas pouvoir se fourrer dans la tête, qu'il n'y eut pas de place pour lui dans la voiture. La porte se referma, le bruit cessa, et Florence pleura sincèrement la perte d'une vieille amie que personne ne pourrait remplacer, non, personne, personne. Monsieur Toots, fidèle et dévoué cavalier, arrêta le cabriolet en un clin d'œil et fit part à Suzanne Nipper de sa commission. Celle-ci se mit à pleurer plus encore qu'auparavant. « Sur mon âme, dit M. Toots, en s'asseyant à côté d'elle, je comprends votre peine. Sur mon honneur, il me semble que vous ne pouvez pas avoir de plus grand chagrin que ceux que je me figure. Je ne puis rien concevoir de plus affreux que d'être forcé de quitter Miss Tombet. » Suzanne s'abandonna de nouveau à sa douleur, et vraiment, elle faisait peine à voir. « Dites donc, s'écria M. Toots, n'allez pas, ou du moins, venez, vous savez. » « Venir où, Monsieur Toots ?» s'écria Suzanne. « Eh bien, chez moi, pour dîner avant de partir. Ma cuisinière est la femme la plus respectable. C'est le cœur le plus maternel que j'ai jamais connu. Elle sera enchantée de vous mettre à votre aise. » Son fils, dit Monsieur Toots, comme pour donner plus de valeur à sa recommandation, avait été élevé à l'école des Bleus Manteaux. Malheureusement, il a perdu la vie dans l'explosion d'une poudrière. Suzanne accepta l'offre obligeante de Monsieur Toots, qui la conduisit chez lui. Elle fut reçue par la dame en question, qui justifia pleinement sa réputation, et par Cockhardy, qui d'abord supposa, en voyant une dame dans la voiture, que M. Tombet avait été plié en deux d'un bon coup dans l'estomac, suivant son ancienne recommandation, et que Miss Tombet avait été enlevée. Ce gentleman produisit sur Miss Nipper un effet singulier. Comme il avait été vaincu par l'Arquet Boy, Son visage était si meurtri que, décemment, il n'était plus présentable en société. Cocardi attribuait cette punition à une faute contre les règles de la boxe. Il s'était trop tôt jeté tête baissée sur son ennemi, ce qui avait donné au Larquet toute facilité pour lui allonger un coup de poing et lui pocher l'œil. Mais, d'après les bruits qui circulaient au sujet de cette lutte sérieuse, on disait que le Larquet avait eu le dessus tout d'abord, que Cocardi avait été grisé, qu'on lui avait fait boire de l'eau-de-vie, du genièvre, etc., etc., qu'il n'avait pas les jambes bien solides et qu'après une complication de préparations imprudentes du même genre, il avait eu bientôt son compte. Après un bon repas offert de bon cœur, Suzanne se rendit au bureau de la diligence dans une autre voiture. M. Toots était à ses côtés comme auparavant et Cocardi sur le siège. Quoiqu'il fît un grand honneur à M. Toots et à Suzanne, par le renom que lui avait valu son héroïsme, physiquement parlant, il ne pouvait guère leur servir de décoration par ses emplâtres qui étaient nombreux. Mais Cocardi s'était juré en secret qu'il ne quitterait M. Toots qu'à une condition. Celui-ci soupirait avec ardeur après une séparation, mais Cocardi ne voulait pas le lâcher avant d'avoir obtenu qu'il le mît en possession d'un fonds de cabaret à titre d'indemnité. Dans l'espoir de mieux arriver à ses fins et de s'enivrer à mort le plus tôt possible, il faisait tout ce qu'il pouvait, par esprit de calcul, pour rendre à son patron sa société insupportable. La diligence qui devait emmener Suzanne allait partir. M. Toots, l'ayant casé dans l'intérieur, la regardait par la porte d'un air indécis jusqu'au moment où le cocher monta sur son siège. Alors, se posant sur le marchepied et introduisant dans l'intérieur une figure qui, à la lumière de la lampe, exprimait le trouble et l'agitation, il s'écria tout à coup « Dites donc, Suzanne, Miss Tombay, vous savez ?»« Oui, monsieur. Pensez-vous qu'elle puisse... »« Vous savez, hein ?»« Je vous demande pardon, monsieur Toots, » dit Suzanne, « mais je ne vous comprends pas. » « Pensez-vous qu'elle puisse être amenée, vous savez, pas tout de suite, mais plus tard, dans bien longtemps, à m'aimer ?»« Voilà, » dit le pauvre Toots. « Oh, cher monsieur, non, » reprit Suzanne en secouant la tête. « Je peux bien vous dire, jamais, jamais. »« Merci bien, » dit Toots, « ça ne fait rien, bonne nuit, ça ne fait rien, merci bien. »